Frères et sœurs, ce matin, le texte que j'ai choisi pour notre méditation est issu d'une réflexion que je faisais à cause du doyen de la faculté de théologie protestante, le professeur Raphaël Picon, qui a réussi le tour de force de faire venir le théologien Jürgen Moltmann à la faculté le mercredi 17 mars de 10h à midi pour une conversation. Jürgen Moltmann est connu pour avoir développé ce que l'on appelle la théologie de l'espérance. C'est d'ailleurs le titre de son ouvrage le plus fameux avec le Dieu crucifié. La théologie de l'espérance constitue l'un des sommets de la théologie protestante du XXe siècle, dont la suite de ce que Bultmann et Barthes avaient écrit. Et au moment où cette théologie commençait à s'essouffler, eh bien, Jürgen Moltmann est celui qui a réussi à redonner de l'ampleur à la théologie protestante. Et c'est dans l'Épître aux Romains, qui est traversée de cette notion d'espérance, que j'ai retenu un texte pour ce matin. C'est au chapitre 4, à partir du verset 13, au moment où l'apôtre Paul s'interroge, réfléchit, à partir de la figure d'Abraham. Et voici ce que l'apôtre Paul écrit. « En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance. » C'est par la justice de la foi. Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Donc c'est par la foi, pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Il est notre père à tous, devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point, par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit « cela lui fut compté ». C'est aussi à cause de nous à qui cela sera compté. Nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus, notre Seigneur, livré à cause de nos offenses et ressuscité pour notre justification. Seigneur, ta parole est vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Pour faire le lien entre le baptême et cette gloire de Dieu, je vous propose de vous lever pour chanter le Te Deum, qui est au numéro 69 de notre cantique Louange et prière. Cantique 69, les strophes 1, 7 et 9. Seigneur, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous et ainsi transformer notre vie. Seigneur, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne en nos cœurs nous donner force et courage d'être. Force et courage de témoigner de toi dans notre vie. Seigneur, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté. Ce souffle de vie qui réveille les hommes et les invite à te suivre. Chers frères et sœurs, il me semble que si, au sein des croyances disponibles en France, le christianisme est délaissé par la plupart de nos contemporains, il me semble que dans le meilleur des cas, on peut estimer à 40%, estimation haute, le nombre de chrétiens en France, ce qui en soi n'est pas un drame, mais on se dit qu'on pourrait faire mieux de toute manière. Eh bien, il me semble que si le christianisme est délaissé par tant de nos contemporains, c'est pour deux raisons. La première raison que j'effleure à peine, c'est celle que le professeur Laurent Gagnebin exprime souvent, c'est que les athées reprochent aux chrétiens de ne pas être suffisamment chrétiens. L'autre, c'est que le christianisme apparaît souvent comme quelque chose d'assez impraticable. L'évangile est bien joli sur le papier. Une fois de plus, ça sonne bien en chair. On peut en faire de beaux ouvrages. Mais au jour le jour, cela semble assez impossible à appliquer. Trop exigeant ou trop en décalage avec la réalité. C'est un peu comme si l'Évangile semblait assez inaccessible ou hors de propos pour nous aider à vivre au quotidien. Une mauvaise méthode, en quelque sorte. Ce n'est pas un bon manuel de management. Cette critique pourrait nous accabler. Elle pourrait remettre en cause notre propre foi. Oui, cette critique pourrait nous accabler si, dans une certaine mesure, elle n'était pas assumée par la Bible elle-même. Parce que, justement, la Bible, et ce passage biblique en particulier, assume le fait qu'il y a un écart terrible entre l'Évangile et notre vie quotidienne. Plus qu'un écart, il y a même une opposition. Et dans ce texte, l'apôtre Paul la pointe en une formule qui vous a peut-être frappé, contre toute espérance. Abraham a cru, il a espéré contre toute espérance. Il y a là une opposition, une sorte de choc frontal. Et cette opposition, Jürgen Moltmann, justement, je vais un peu en parler ce matin, l'érige au rang de conflit, un conflit qui traverse toute notre vie spirituelle. C'est le conflit entre l'expérience, la réalité, ce qui est, ce que nous avons sous les yeux, et l'espérance, justement, ce qui peut être, l'expérience possible. C'est le conflit entre tout ce qui, dans notre histoire, démontre la domination de la souffrance, du mal, de la mort, et d'autre part, l'espérance qui nous oriente vers un mieux-être. C'est un conflit que Jean Calvin relevait déjà d'ailleurs. Il écrivait, je cite, « La vie éternelle nous est promise, mais cependant nous sommes morts. On nous tient propos de la résurrection bienheureuse, mais cependant nous sommes environnés de pourriture. » Au fond, il y a une sorte de contradiction, bien plus qu'un paradoxe, entre ce que nous constatons au jour le jour et ce que la foi nous promet, ce que la foi nous laisse espérer. Ce conflit, c'est la contradiction entre ce qui est et ce qui devrait être. C'est la contradiction entre la prédication chrétienne et la vie quotidienne. C'est la contradiction entre les bons sentiments chrétiens, bien sûr qu'on voudrait aimer tout le monde, et puis leur mise en œuvre. Je serais tenté de dire, bien sûr qu'on n'aime pas tout le monde. C'est la contradiction entre le monde, pour reprendre un terme théologique, et l'Évangile. Cette opposition que l'on trouve tout particulièrement dans l'Évangile selon Jean. Et d'ailleurs, il y a une variante de la confession de foi dite de l'oratoire qui dit « La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. » Ce n'est pas qu'il faudrait détruire le monde, mais c'est qu'il faudrait venir à bout d'un monde, le monde qui est en opposition à cette vision qu'offre l'Évangile. Cette opposition, cette contradiction, ce paradoxe, cela sous-entend que l'Évangile, ça ne va vraiment pas de soi. D'ailleurs, il suffit de consulter les informations que diffusent les médias pour avoir la liste détaillée de tout ce qui va de travers dans notre monde et qui contredit le bien fondé de l'espérance chrétienne. Il n'y a qu'à laisser parler notre propre expérience, d'ailleurs, pour que s'expriment nos désillusions, parfois nos détresses, à l'égard de tout ce qui ne va pas comme nous serions en droit de l'espérer. Et je pense en particulier à tous les travailleurs sociaux, à ceux qui sont dans une relation d'aide, ceux aussi qui ont la responsabilité d'emmener la société sur des chemins d'un mieux-être, les responsables politiques notamment. Toutes ces personnes sont menacées de ce qu'on appelle le burn-out. Le burn-out qui est cette forme de dépression qui touche ceux qui ont le sentiment que ce qu'ils font ne sert à rien. que leur engagement au sein de la société ne suffit pas à rendre cette société meilleure et plus vivable. C'est le sentiment que le monde ne va pas mieux, en dépit de toute l'énergie qu'ils consacrent à leur mission. C'est le sentiment que la société continue à dévorer ses membres. Au fond, c'est le sentiment que c'est foutu, que de toute manière, ça ne changera pas en mieux. Eh bien, ce sentiment qui est assez prégnant de nos jours, c'est un sentiment qui existait déjà au temps où des hommes réfléchissaient à leurs conditions humaines et essayaient d'en dire quelque chose à travers la mise en récit de figures exemplaires, parmi lesquelles Abraham. Abraham, quand on lui dit qu'il va être père de générations aussi nombreuses que les grains de sable, lui qui a 100 ans, lui dont l'épouse est réputée stérile, a de quoi trouver une contradiction dans les termes entre ce qu'on lui promet et ce qu'il a sous les yeux, le palpable, le concret. Alors, face à ce constat, face à cette contradiction, face à ce désenchantement de la vie, en quelque sorte, certains baissent les bras, ils se résignent, et avant de sombrer totalement, ils ont une sorte de stratégie de secours, ils se détachent de cet environnement et ils se réfugient derrière une forme de cynisme, à la manière de ce que Camus peut être présenté dans le mythe de Sisyphe, des hommes qui pensent clair mais qui n'espèrent plus. Ce sont des personnes qui veulent se réfugier, qui veulent se protéger, qui veulent se mettre à l'abri, et qui font en sorte de ne plus se laisser affecter par les situations, qui s'efforcent de faire en sorte que toute relation humaine glisse à la surface de leur vie, pour qu'ils ne souffrent plus des manques de changement qu'ils espèrent tant. C'est là leur manière de se protéger, leur manière de ne plus être affectés par des situations qui leur semblent être de véritables impasses pour leur vie. Jürgen Moltmann, lui, de son côté, qui admet que Dieu ne soit pas impassible et que la souffrance en Dieu lui-même soit possible, voit dans cette situation le véritable péché. Selon lui, le péché ne relève pas d'un comportement moral défaillant. Le véritable péché, selon Moltmann, c'est le désespoir. Désespoir qui est l'absence muette de sens, de perspective, d'avenir et de visée. Au fond, il y a quelque chose d'assez terrible dans ce postulat de Moltmann. Parce que nous sommes toutes et tous, un jour ou l'autre, gagnés par une forme de désespoir. Et ce n'est pas pour autant que nous voulons pécher. Mais c'est une manière pour Moltmann d'insister sur l'autre versant, sur ce qui va pouvoir nous sortir justement de cette condition-là. Avec l'apôtre Paul, nous pouvons découvrir que justement, cet autre versant, ce versant sur lequel marchent les personnes qui ne se résignent pas, ces personnes qui font preuve de ténacité, ces personnes qui ne s'écroulent pas quand tout semble indiquer qu'il n'y a plus d'issue favorable, eh bien, nous pouvons découvrir les racines de cette ténacité, de cette espérance qui surmonte le désespoir, dans la fidélité de Dieu. Espérer encore, espérer contre toute espérance, parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Ce n'est pas espérer malgré tout. Ce n'est pas adopter une sorte de posture optimiste. Moltmann d'ailleurs insiste pour dire que l'espérance chrétienne n'est pas un optimisme de l'homme poussé par son désir, mais un extranos, quelque chose d'extérieur qui vient de la promesse de Dieu. En soi, cela n'arrange pas vraiment nos affaires. Parce que inscrire l'espérance dans la fidélité de Dieu, c'est un acte de foi, bien entendu. Mais je pense aux non-chrétiens, qui pourraient très bien nous objecter que ça ne fonctionne qu'à la condition de croire dans cette illusion qu'on appelle Dieu. Et lorsque Moltmann inscrit l'espérance chrétienne dans le fait central de la résurrection, les non-chrétiens pourraient objecter que ça ne fonctionne qu'à la condition de croire dans cette histoire incroyable de Pâques. Et ces objections, nous ne pouvons pas les balayer négligemment d'un revers de la main. Ces objections nous obligent. Nous devons les prendre au sérieux pour que notre espérance ne soit pas justement une sorte d'optimisme illusoire, une sorte de posture de bon aloi. De même que nous ne pouvons pas nous contenter de dire « Eh oui, c'est vrai, Dieu est fidèle puisque la Bible dit qu'il l'est. » De même, nous ne pouvons pas nous contenter de dire « Oui, c'est vrai, Dieu accomplit ses promesses puisqu'il est écrit dans la Bible qu'il a fait pour Abraham tout ce qu'il lui avait promis. » De même, je ne saurais vous demander de dire « Oui, c'est vrai puisque le pasteur l'a dit ce matin. » Ce serait confondre foi et crédulité. Cela signifie que nous ne pouvons pas prendre ces déclarations de principe pour argent comptant sans les soumettre au feu d'une critique. Penser la foi, penser la fidélité de Dieu, ça ne peut pas être simplement une sorte d'hypothèse de départ qu'on ne vérifie jamais, qu'on ne valide jamais. Penser la foi, penser la fidélité de Dieu, c'est justement ce que fait l'apôtre Paul. Et c'est ce que nous invite à faire Moltmann à sa suite. Lorsqu'il reprend cette vieille histoire d'Abraham, cette histoire qui se transmettait de génération en génération dans le peuple, eh bien Paul rappelle que l'accomplissement de la promesse divine doit être assuré à toute la descendance, au sens universel du terme, tous sans exception. Cela signifie que nous-mêmes, nous devons pouvoir être en mesure de valider cette hypothèse. Nous devons nous-mêmes être en mesure de pouvoir dire effectivement, la fidélité de Dieu n'est pas qu'une simple hypothèse, ce n'est pas qu'une simple illusion. Nous pouvons y croire. Le terme grec que Paul utilise dans cette épître, c'est le terme « bebaios ». Et c'est un terme qui permet d'exprimer la confirmation de cette promesse, la validation en quelque sorte. Et cela est une sorte d'incitation de Paul à faire de même aujourd'hui dans notre propre vie quotidienne. Il ne suffit pas de recevoir cette promesse, ce sorte de packaging, comme Sandrine nous en parlait tout à l'heure. Encore faut-il l'éprouver, encore faut-il que cela soit vrai pour nous. Et c'est la raison pour laquelle Moltmann dit que l'Évangile n'accomplit pas les promesses que l'on trouve déjà dans le Premier Testament, mais qu'il les valide. Il les valide pour ceux de la génération de Jésus. Mais il ne les valide pas encore pour nous. Ces promesses ne sont pas validées tant qu'elles n'ont pas été validées par nous-mêmes, en personne. Cela signifie qu'à notre tour, il nous faut aussi vérifier que cette promesse correspond à quelque chose de véritable. Que cette promesse est encore valide aujourd'hui. Et cela implique que nous nous mettions effectivement à l'écoute du monde pour y entendre de quelle manière la promesse divine est à l'œuvre dans notre monde et pour voir de quelle manière cela implique que nous nous engagions pour que cette promesse devienne réaliste. En termes clairs, ne finissons pas, En termes clairs, il s'agit d'entendre que ressusciter est possible de nos jours encore. Il s'agit d'entendre et de vérifier que nous pouvons être nous-mêmes agents de résurrection, aujourd'hui encore. Et c'est à nous, personnellement, que cette tâche théologique incombe. Nous ne pouvons pas la déléguer. Nous ne pouvons pas dire au pasteur « c'est à vous de nous prouver cela ». Nous ne pouvons pas dire à l'Église « nous vous confions la responsabilité de vérifier cela, mais nous, nous croyons sur parole, aveuglément ». C'est à nous, personnellement, qu'incombe cette tâche théologique. Alors, je prends un exemple pour vous montrer que cela n'est pas hors de portée, que cela peut se faire. C'est un exemple que je prends dans le livre de Cyrulnik, Nick, Un merveilleux malheur, ce pédopsychiatre qui raconte des trajectoires. Et il raconte l'histoire d'un enfant, Maurice, qui a passé les 10 premières années de sa vie en compagnie de deux parents alcooliques qui se battaient tous les jours. À l'âge de 10 ans, il a été placé dans une institution où il n'a pas été malheureux, jusqu'au jour où il a rencontré un jardinier. Un jardinier qui a enchanté sa vie. Chaque jour, l'enfant attendait ce travailleur et s'empressait de lui poser des questions banales auxquelles l'homme répondait gentiment. Pour l'adulte, ce n'était vraiment pas grand-chose, ce n'était presque rien. Quelques minutes de vacances pour répondre à cet enfant. Mais pour le petit, ce fut un événement énorme, fabuleux, car c'était la première fois de sa vie qu'on lui parlait gentiment. Et l'histoire nous apprend qu'aujourd'hui, ce petit Maurice est devenu universitaire. Et c'est ainsi qu'au contact d'un jardinier, ce qui n'a rien de nouveau pour le lecteur de la Bible, que ce petit a été ressuscité, relevé de son malheur. C'est vrai pour les anonymes qui sont autour de nous. On peut penser, sans les nommer, à ces personnes que nous sortons de l'embarras, que nous sortons de l'anonymat, de ces personnes que nous relevons alors qu'elles rampaient pour essayer de survivre. C'est vrai aussi pour des personnes aussi célèbres que les chanteurs Georges Brassens ou Barbara. C'est aussi vrai pour Niki de Saint-Phal, qui s'est donné ce nom comme un étendard qui transgresse la transgression de l'enfance et qui signifie par là même la résurrection de son âme blessée. Transgression. Car c'est bien de transgression dont il s'agit. Transgresser, tel est bien le sens profond de cette théologie de l'espérance qui pointe dans cette lettre aux Romains et que Moltmann met en musique. Moltmann écrit que croire signifie transgresser par une espérance anticipante les limites où la résurrection du crucifié a pratiqué une brèche. Transgresser. Au fond, ce que Moltmann développe, ce que Moltmann nous invite à découvrir, c'est que l'espérance chrétienne, c'est ce moteur qui nous pousse à transgresser les lois, qui condamne l'humanité à n'être que l'ombre d'elle-même. L'espérance, c'est ce qui nous pousse à transgresser les habitudes qui nous empêchent de donner le meilleur de nous-mêmes. Ces habitudes qui font que nous répétons inlassablement ce qui a toujours été fait. Ces habitudes qui nous empêchent donc d'être meilleurs demain que nous ne le fûmes hier. L'espérance qui nous pousse à transgresser le réel, à faire craquer tous les vernis qui figent la vie et font de nous parfois des personnages de musée qui ne bougent pas, qui ne pourront jamais progresser, qui ne pourront jamais s'épanouir, qui resteront là, en l'état, ad vitam aeternam, mais sans le vitam. Transgresser, parce que l'espérance que Dieu suscite en nous vient ajouter de l'espérance à l'espérance. Ou pour le dire avec l'expression grecque que l'apôtre Paul emploie, une espérance au-dessus de l'espérance, sous-entendu supérieure à l'espérance commune, sous-entendu supérieure à cette espèce d'espérance bon marché qui n'est qu'un optimisme de confort. Mais oui, ça ira mieux un jour. Comme si le fait de le dire était suffisant pour que cela advienne. Précisément, l'espérance est ce qui nous pousse à attaquer le monde, à l'empêcher de rester en l'état, de rester tel qu'il est. Oui, l'espérance est ce qui nous pousse à attaquer ce monde-ci lorsque celui-ci impose le conformisme comme mode d'existence. Lorsque le monde réduit notre horizon d'attente, lorsqu'il ampute notre futur de tout ce que Dieu nous rend capable d'entreprendre. Transgresser, combattre. Car comme l'écrit Moltmann, on ne peut pas simplement espérer et attendre la seigneurie du Christ ressuscité. Cette espérance et cette attente façonnent en outre la vie, l'action et la souffrance dans l'histoire de notre société. Et c'est peut-être à la condition de faire preuve de ce genre d'espérance que toutes ces personnes qui se sentent si loin de nous et qui considèrent que le christianisme est impraticable pourront peut-être découvrir qu'on n'attend pas des chrétiens qu'ils soient tels des messies, qu'on n'attend pas des chrétiens qu'ils réussissent toutes leurs actions, et peut-être même qu'ils fassent mieux que Jésus, lui qui n'a pas guéri tout le monde, lui qui n'a pas sauvé tout le monde. L'espérance, ce n'est pas que nous allons réussir à tout changer seuls. Cette espérance chrétienne, c'est que nous pouvons nous lancer dans ce combat. Sun Tzu, lorsqu'il écrit « L'art de la guerre », donne comme première consigne de ne pas s'engager dans le combat si on sait que le combat est perdu d'avance. Et ça, c'est une mesure de sagesse qu'il ne faudrait pas trop perdre de vue. L'espérance chrétienne nous dit que justement, cette première condition est remplie, que les transformations sont possibles, que les résurrections sont possibles. Alors, ça ne sera pas une résurrection globale, ça ne sera pas une résurrection d'ensemble, mais ce que nous ferons pour chacun, pour chacune, ne sera pas sans conséquence. Je finis avec cette citation de Moltmann. Il écrit « Ne pas se conformer à ce monde veut dire transformer. Par sa résistance ou par son attente créatrice. Transformer la forme du monde où l'on croit, transformer ce monde où l'on espère et où l'on aime. Amen. »